À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine je reçois
Noël Ehrenschmidt, aquarelliste reporter.
Cinquième épisode, le procès du 13 novembre. Bonsoir Noël Ehrenschmidt.
Bonsoir.
Alors c'est déjà la dernière avec vous. Nous avons vu comment vous êtes née avec un pinceau dans une main et la balance de la justice dans l'autre, comment vous vous êtes plongée dans le monde judiciaire à travers les procès et les enquêtes, comment ensuite vous avez croqué les coulisses de nos institutions républicaines et des lieux peu visités par le commun des mortels. Hier, vous nous avez montré, raconté comment vous travaillez. Aujourd'hui, pour finir, je voudrais vous proposer de revenir sur votre dernière grande aventure en date, à ce jour, début novembre 2022. Une expérience qui vous a occupé pendant 10 mois et qui a peut-être des répercussions encore aujourd'hui, du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022. Je veux parler du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont tué à Paris et dans sa proche banlieue 131 personnes et qui en ont blessé plusieurs centaines. C'était naturel que vous y alliez, comme pour boucler une boucle ?
C'était non seulement naturel, mais c'était obligatoire. Carrément. Puisque j'ai eu la chance de découvrir la salle des pas perdus transformée pour le procès du V13 fin juin. Et je me vois encore arrivant dans cette salle avec le choc. Je me suis dit, mais ma vieille, c'est la salle que tu as dessinée en 93 pour les carnets du palais. Une salle que je connaissais par cœur, dans laquelle j'ai vécu 3 ans. Cette salle, elle est transformée pour un procès. Je dois suivre ce procès. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans la salle des pas perdus Julien Quéré, qui gérait un magistrat qui gérait entièrement la salle et la gestion du procès, qui m'a permis d'entrer dans cette salle, de dessiner cette salle vide. Et une fois que j'ai fait le premier dessin, m'a dit cette phrase formidable : est-ce que vous voulez dessiner à la place du président ? Donc j'ai dessiné à la place du président dans la salle du procès vide. Et il était évident que j'étais chez moi dans ce lieu et que j'allais suivre ce procès, dont bien entendu, comme d'habitude, je ne savais rien.
Quand même, là, vous étiez contemporaine des événements, contrairement à d'autres grands procès d'histoire. Vous les aviez vécus aussi, pas forcément directement dans votre chair, mais enfin, on l'a tous et toutes ressenti dans notre chair.
Mais surtout, je me suis dit, c'est providentiel, je dois y être. Donc quand j'ai reçu l'accréditation, je me suis mise sur mon 31 de tenue de travail, je me vois partant avec ma valise, parce que j'évitais quand même de porter des choses trop lourdes, entrer là en me disant « je suis là où je dois être ».
Vous saviez déjà que ce serait le dernier, pour vous ?
Non, j'y pensais pas du tout. Je pensais d'ailleurs, comme d'habitude,
à rien. Vous n'aviez pas décidé, je veux dire.
Pas du tout, je me suis dit « on y va et on voit ». Et j'ai vu d'abord les places qui étaient réservées aux dessinateurs. Et ça, je le dis sincèrement, on n'a jamais été aussi bien installé depuis les 35 ans de procès, assis dans des fauteuils, oui, confortables, et surtout avec une tablette. C'est-à-dire que on pouvait poser nos cartons à dessin sur une petite tablette, un confort total. Et ça, c'est excessivement rare. Et en plus, pour moi, quand même, j'entre dans cette salle, qui était donc une salle dont je connaissais la salle des pas perdus, et je tombe sur ces 2 statues. Je ne peux pas vous dire le choc que j'ai eu. 2 statues que je connaissais pour les avoir vues dans l'ancienne salle des pas perdus.
La France et la fidélité, sculptée en 1826 par François-Joseph Bozio, et que vous avez donc dessinée. Ça a été un choc pour vous ?
Un choc, mais je me suis dit, mais on se retrouve, mesdames, on se retrouve. C'est-à-dire que pendant les 3 ans où j'avais été au palais de justice pour faire les carnets du palais, bien entendu que je passais devant elle tout le temps. Et en ouvrant la porte, je vois ces 2 femmes derrière le verre. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai dit, mais on se retrouve, bonjour mesdames. Et j'ai trouvé que ce qui était inouï, c'est que ces femmes du siècle dernier allaient écouter notre époque et des faits gravissimes. Donc il y avait une espèce de lien qui se passait entre avant et aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était une idée absolument géniale que d'avoir permis à ces femmes, donc la France et la fidélité qui connaît un cœur en main, Je les ai saluées tous les matins où je suis venue et j'ai eu le sentiment qu'elles accompagnaient et qu'elles écoutaient toutes les paroles de ce procès.
Procès qui a été le plus long des annales judiciaires pour juger la série d'attaques la plus meurtrière de notre histoire, avec des moyens inédits, une présence médiatique inédite également, 2234 parties civiles, 14 accusés, 350 avocats, 150 journalistes accrédités. Procès historique, hors norme, avons-nous entendu tout au long de ces 10 mois. Est-ce que, Noël Ehrenschmidt, vous l'avez ressenti comme tel?
Ça, c'était évident, déjà avec la taille de cette salle d'audience. En plus, j'ai rapidement rencontré l'architecte qui avait fait ce travail. Et l'architecte n'a eu de cesse de me dire que tout avait été fait pour que, au milieu de ces faits absolument terrifiants, il règne dans cette salle d'audience une espèce de climat de bienveillance qui fasse que les jeunes, puisque c'est un procès de jeunes, les jeunes victimes, les jeunes accusés, souvent de jeunes avocats, tout ce groupe se sente accueilli et puisse vivre d'une façon aussi confortable que possible, avec des guillemets, ce qui a été un procès absolument terrifiant au niveau de ce qu'on entendait. Ça a été fait pour que les gens se sentent bien. Et honnêtement, j'ai eu le sentiment que les victimes et que tous ceux qui ont participé à ce procès l'ont vécu d'une façon confortable, déjà grâce à la façon dont étaient organisés les murs couleur sable, des couleurs assez douces, et puis un climat qui était évident pour moi dès le premier jour, du côté des avocats, du côté des victimes, et il m'a semblé du côté des accusés.
Je vais me permettre de reprendre les premiers mots qu'a prononcé l'une des avocates générales, Camille Hentier, qui a ouvert les 3 jours de réquisitoire. Elle a dit, pour ouvrir son réquisitoire, que retiendra-t-on de cette audience? Quelles images, quelles paroles resteront?
Alors pour moi, ce qui est évident, c'est la parole des victimes. Plutôt que victimes, je dirais rescapées ou des familles. C'est ça qui a empli la salle de paroles d'une puissance, d'une force et presque de positif aussi. Il faut imaginer ce qu'on a entendu. J'oublierai jamais, puisque l'avantage des dessinateurs d'audience, je l'ai déjà dit, on est au pied de la cour, donc on est au cœur de l'action. On est à la fois au pied du président, on a les avocats généraux, on a les avocats de chaque côté, la défense, les parties civiles. Et on est face, pratiquement, à côté de la barre, où vont témoigner
les rescapés parties civiles, ou les participants.
Donc on est dans une place absolument formidable. Énormément d'écrans dans toute cette énorme salle pour reproduire. Mais alors personnellement, moi je ne peux pas travailler au travers d'écrans. Moi j'ai besoin de direct. Donc les dessinateurs pouvaient choisir d'ailleurs de rester dans la cour pour avoir le direct ou d'aller dans la salle. Il y a eu quand même des mouvements. On a pu aller dans la salle aussi, sentir les choses, puisque dans la salle, on n'entend pas la même chose que quand on est dans la cour. C'est ça qui est intéressant. Mais alors, ce flot de paroles libérées, et comme vous disiez, c'était maintenant, c'était aujourd'hui, c'était plus comme au moment de Barbie, 30 ans après, c'était notre actualité, avec des gens jeunes qui arrivaient, avec les cannes, avec le visage totalement abîmé et avec une parole d'une puissance qui fait que je ne me souviens pas avoir été lasse d'un témoignage. On était suspendu littéralement aux lèvres de toutes ces personnes qui venaient témoigner de ce qu'elles avaient vécu, qui venaient partager, il ne faut pas oublier, elles venaient partager. Et nous, une fois de plus, on était là pour rendre compte. Donc si on se souvient de quelque chose, pour moi, c'est ces paroles de victimes et de résistants, si on peut dire.
Vous en avez fait un livre qui s'intitule « Juger le 13 novembre, une réponse démocratique à la barbarie », un livre qui a été réalisé avec Antoine Garapon, on le retrouve encore et toujours. Et cette fois, Arthur Desnouveaux, qui est un rescapé du Bataclan et qui préside Life for Paris. C'est un livre édité par La Martinière. Il était évident, là encore, Noël Ehrenschmidt, que vous en feriez un livre, peut-être pour l'histoire, ou ça s'est décidé après coup?
ça ne s'est pas décidé tout de suite. Vous savez bien, je ne prévois pas. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, il a semblé évident, même en parlant avec les victimes, parce que je me suis rapprochée de ces gens qui avaient parlé. On pouvait, pendant les interruptions d'audience, se retrouver. Toutes ces victimes, Philippe, Amandine, qui étaient là presque tous les jours, à des places données, ils s'étaient regroupés de façon à se soutenir. C'est ça qui est inouï, ça a été un lieu de rencontre extraordinaire. Ils avaient besoin qu'on retransmette et qu'on dise ce qu'on avait entendu. Et pendant les mois d'hiver, où c'est vrai, il y a eu des moments de fatigue, il ne faut pas l'oublier, j'y ai été tous les jours, je crois que les jours où j'ai manqué, c'est que j'ai eu le Covid. Mais je voudrais quand même faire une petite parenthèse en disant que j'ai eu la chance d'avoir un pied-à-terre qui m'a été prêté par Frédéric Biessy. Et ça, ça a été quelque chose d'inouï. C'est quelqu'un qui m'a aidée en disant « Vous ne pourrez pas tenir en allant en banlieue tous les jours, ce qui était vrai. » Donc j'ai pu passer la plus grande partie de ce procès sur place. Et ça, je ne le remercierai jamais assez. Donc j'étais là pour. Et il nous a semblé à un moment qu'il était évident qu'il fallait faire un livre. Donc Antoine était d'accord, Arthur, qui travaille beaucoup avec Antoine, m'a tout de suite dit oui. Et surtout, pour faire ce livre, j'ai eu la chance de retrouver mes deux alter-ego, Frédéric Houssin et Cédric Ramadier. On travaille ensemble depuis 35 ans. Ils me connaissent par cœur.
Ils font quoi, eux ?
Alors, eux, ils ont fait la mise en scène, la maquette de tout le livre. Et alors, travailler avec eux pour ce travail, ils l'ont accepté. Il y a longtemps qu'ils ne font plus ça. Mais ils ont accepté par amitié pour nos 35 ans de travail commun. C'est Frédéric Houssin qui a fait les carnets du palais. Cédric est venu avec lui et on a fait tous les autres livres avec ces deux personnes qui s'appelaient Double, qui avaient créé une entité qui s'appelait Double. Et on fait ce livre qui sera certainement mon dernier livre dans ce style avec ces deux personnes. Et ça, pour moi, c'est cadeau parce que les pages où j'avais des hésitations, il suffisait d'aller les voir. Je leur montrais ces pages, je n'y arrive pas, et dans la minute qui suivait, la solution a été trouvée. C'est ça, de travailler avec des gens qu'on connaît par cœur et qui nous portent.
Je pense que c'est un livre et un travail, Noël Ehrenschmidt, qui synthétise finalement au mieux tout ce que vous nous avez dit au cours de ces 5 jours, qui synthétise au mieux vraiment votre démarche, votre travail et la force humaine de vos dessins. On va peut-être en prendre quelques-uns qui représentent ce que vous avez vraiment vu et vécu lors de ce procès. Mais dans l'ensemble, vous alternez des moments très durs et des moments de pause. Des moments forts des audiences et les coulisses. Alors on y voit les parties de cartes des gendarmes, toujours les gendarmes, hein, en salle de repos. On voit la bienveillance des gilets roses qui étaient chargés de soutien psychologique des victimes. Il y a même une chorale. C'était une chorale des avocats de partie civile. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est ça que je trouve qui a été formidable. C'est que vous parlez des gilets roses. Le premier jour, il a été évident qu'il fallait y ait des aides pour justement permettre aux personnes, aux victimes de vivre. Et donc ces victimes pouvaient aller voir ces gilets roses, qui étaient jeunes d'ailleurs, et qui pouvaient immédiatement les entendre et les épauler. Et vous parlez des gendarmes. Je retrouve mes gendarmes. C'est comme si on ne s'était jamais quittés. Et d'ailleurs, mes copains dessinateurs se moquaient de moi. On était fusionnels avec ces gendarmes. Et je rencontre un gendarme. Il m'aide à porter ma chaise. Je lui dis « Merci, vous me sauvez la vie ». Et il me fait cette réponse formidable. J'ai signé pour ça. Donc, gendarme, il y a 30 ans, gendarme aujourd'hui, il m'a semblé que c'était les mêmes. Et la même volonté d'aider l'autre.
Et sur cette alternance entre des moments très lourds, très durs, et des moments de respiration, est-ce que vous avez reconstruit ça après coup pour le livre, ou est-ce que vous avez vécu les choses de cette façon-là ?
On les a vécues forcément, et j'ai fait exprès de les remettre à des places importantes. Par exemple, ce que j'ai trouvé formidable, l'escalier d'honneur de la salle des pas perdus devenait la cantine. Il n'y avait absolument rien de prévu. Il faut dire qu'on a mangé ou pas mangé. Je dois dire que là, ça a été une période au niveau de la nourriture assez légère. Donc, tout à coup, au moment où on a une pause, on voit les avocats, tous ensemble, les victimes, assis sur les marches en train de manger leur sandwich. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire, voilà ce lieu que j'ai dessiné, qui était un lieu noble et qui devient la cantine du lieu. De même que tous les participants de ce procès qui se retrouvent sur l'escalier, qui montent au palais, au soleil, qui discutent entre eux, ça faisait des moments de pause formidables. Donc on a fait exprès d'alterner de façon à ce que le lecteur qui va devoir lire les témoignages énormes qu'on a mis quelquefois sur 4 pages arrivent à survivre.
Et j'allais venir à ces longues pages de témoignages de rescapés ou de proches de victimes, avec parfois juste un dessin. Alors, ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, Noël Ehrenschmidt, sur les moments qui vous ont le plus frappé et ce pourquoi vous pensez que le dessin d'audience est fondamental. Je prends Gaëlle, par exemple. Votre dessin de Gaëlle, vous pouvez nous le raconter ?
Alors ça, c'est par chance, j'étais dans une position où Gaëlle est arrivée avec ce haut blanc, ce pantalon noir, droite, extrêmement élégante, et elle s'est posée avec ce bon profil devant moi. Donc je ne voyais que la partie intacte de son visage.
Son visage ayant été abîmé dans
les attentats. Visage ayant été totalement abîmé de l'autre côté. C'est une grande chance. Et cette femme, d'une dignité totale, avec une voix, je me souviens, assez douce, parle longuement de ce qu'elle a vécu. Et c'est inimaginable d'entendre ça. Ce qui fait que dans cette page, comme vous avez dit, elle est seule, entourée de blanc. Et le texte va être un texte de 4 pages. On espère que les gens accepteront de le lire, tellement c'est à la fois une leçon de reconstitution intérieure et physique absolument inimaginable. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Une leçon de dignité qui laisse pantois.
De la même façon que suivent les témoignages très longs et difficiles à lire d'Amandine et d'Aurélie.
Alors Amandine, c'est quelqu'un dont je suis restée très proche. Elle a fait exprès, elle, de venir à la barre habillée avec une robe de couleur et une robe imprimée. Je vous avais dit que les victimes au procès Barbie venaient maquillées. Eh bien, Amandine, elle est venue avec cette petite robe pimpante, justement exprès, pour ne pas arriver en sombre, pour arriver en couleur et pouvoir dire à quel point ça avait été violent, mais à quel point elle n'a jamais baissé les bras. Et même quand elle dit « j'ai pensé que j'allais mourir d'une façon positive. Il n'était pas question que je sois une victime dépendante, j'allais dire. C'est une page, une seule page, porteuse d'une volonté de survivre que je trouve absolument admirable, que tout le monde devrait lire. »
Bon, et puis il y a aussi cette double page, on parlait, vous nous parliez, Noël Ehrenschmidt, de l'importance du blanc dans votre travail. Cette double page qui est très forte parce qu'elle est quasiment blanche.
Alors ça, c'est Yolande, qui est un des moments le plus énorme au niveau émotion. Cette femme arrive et avec une voix assez douce, elle demande à ce qu'on montre derrière la cour ces 2 jumelles qui ont été tuées. Je ne peux pas vous dire ce que c'était au niveau de la force émotionnelle. Et là, justement, j'ai fait un dessin de rien. Je pense que le dessin exprime toute la douleur de cette femme. On a mis du blanc autour, mais on a mis aussi dans l'autre image Yacine Attar qui se lève et qui dit « Beaucoup autour de moi sont sensibles au témoignage qu'on entend, c'est-à-dire que même du côté des accusés, l'émotion passait et l'émotion était dite. Donc ces 2 images sur un fond blanc sont très fortes parce qu'elles racontent aussi du fait que, une fois de plus, il y a les accusés, mais les accusés ne sont pas tout en bloc inhumains.
Dans les accusés, la figure centrale, c'est celle de Salah Abdeslam, que vous avez évidemment croqué. Vous avez eu du mal, Noël Ehrenschmidt, parce qu'au début, il était masqué. Donc effectivement, c'est un défi supplémentaire pour le dessinateur. D'ailleurs, tout le monde était masqué hein, pendant longtemps. Puis on voit au fur et à mesure d'ailleurs du livre, les masques s'enlèvent, les masques se retirent. Et donc, nouveau défi, dessiner les mêmes sans masque et l'émotion sans masque. Mais là, il vous a fallu sans doute représenter l'évolution aussi de cet accusé, de la haine qui l'éructe. au début, à l'émotion, puisque en avril, il dit « Je présente mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes ». Il est dessiné de profil à ce moment-là. Et la page suivante, le 15 avril, vous dites simplement qu'Abdeslam pleure. Et la légende, c'est « Moi, je demande aujourd'hui qu'on me déteste avec modération ». Vous le représentez, les yeux un peu rougis. Il a fallu dessiner tout ça.
Oui, mais alors là, c'est encore, ça va vous paraître énorme, c'est venu tout seul. C'est venu au moment où ça devait venir. Ce jour-là, j'étais tout près d'Abdeslam. C'est-à-dire que j'avais demandé l'autorisation aux avocats de me rapprocher. Puisqu'on était quand même assez loin, en général,
des accusés.
Là, je demande d'être exactement face aux avocats de la défense, donc très près d'Abdeslam. J'étais à côté de Benoît, un autre dessinateur. Donc, on était... Il y a 3 jours qu'il y avait des interrogatoires. Et on avait vu déjà le visage de ce garçon, difficile à saisir, parce que c'est un visage à la fois jeune, mais à la fois très mouvant. Et on a eu la chance d'être tout près dans ce jour d'avril, où véritablement toute la douleur personnelle de cet homme à qui on avait parlé de sa mère et à qui on avait parlé de son frère qui s'était fait exploser ressort. C'était en fin de journée, si je me souviens bien. Et tout à coup, il y a une émotion qui paraît. Et contrairement à ce que pouvaient dire certains au fond de la salle, regardant au travers des écrans, on a été tous les deux bouleversés par l'authenticité de ce visage qui se met à pleurer. Ça, alors, on m'ôtera pas de l'idée qu'il s'est découvert sous un jour profond qu'il n'avait pas forcément envie de montrer, mais qui, ce jour-là, débordait. Et j'ai trouvé que c'était formidable d'avoir pu montrer, encore une fois, cet homme, avec tout ce qu'il y a de terrifiant dans ses actions, dans ses paroles, qui tout à coup accepte, ou n'accepte pas, mais découvre une partie de son humanité. Encore une fois, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, je crois, c'est ça un procès, et c'est ça l'être humain, double. Et cela encore plus double que nous-mêmes.
Il y a quelques jours, justement, vous nous parliez, Noël Ehrenschmidt, du dernier dessin de votre livre sur l'hôpital, et à quel point vous teniez à ce dernier dessin. Moi, je voudrais juste qu'on termine de parler de ce procès du 13 novembre et de ses répercussions et de la façon dont vous l'avez vécu comme dessinatrice, comme aquarelliste reporter, en évoquant le dernier dessin. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, dans ce livre, bien entendu, comme il y a eu énormément de choses et d'émotions dans ce procès. Le dernier dessin, c'est la place Dauphine. On est un jour de juillet 2022 et on est à la terrasse d'un café.
Exactement, et je pense que c'était très important. Les arbres qu'on avait connus au début du procès sans feuilles avaient des feuilles. Donc on était passé de l'automne à l'hiver et à nouveau
au printemps puis à l'été.
Puis à l'automne. Et donc la vie reprenait son cours, c'est-à-dire que les gens étaient en train de boire dans cette place extrêmement sereine. Et la vie reprenait son cours. Et je trouvais que c'était important pour moi de finir ce livre sur demain, sur la vie qui reprend. Ça n'occulte absolument pas la terreur qu'on a pu vivre et qu'on a pu partager, mais quoi qu'il en soit, conformément d'ailleurs aux témoignages de beaucoup de victimes, la vie reprenait son cours. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de finir, non pas sur une note d'espoir, l'espoir possible, mais en tout cas, la vie est forte.
Et ça... pour vous, alors, demain, ou même maintenant, Noël Ehrenschmidt, vous avez été entouré, lors d'ailleurs de ce procès, de dessinateurs plus jeunes que vous, mais vous avez pris un bain de jouvence, et eux ont pris un bain d'expérience, je pense, hein, chacun a appris les uns des autres. Ça vous a donné envie de continuer dans un sens ou dans un autre, dans une voie particulière, de raccrocher, de ranger les pinceaux ?
Certainement pas, mais je suis en pause. Souvent, après des énormes travaux comme ça, j'ai une pause, une espèce de réflexion. Mais vous parliez de tous ces jeunes dessinateurs, ça c'est vrai que pour moi ça a été une expérience unique de travailler comme dans un groupe d'atelier, avec des gens qui avaient 40 ans, qui avaient 35 ans, qui dessinaient différemment, qui m'ont beaucoup appris. C'est évident qu'on a partagé, mais j'avais l'impression vraiment pas du tout d'être grand-mère, d'être leur sœur. On était semblables, on avait une vision semblables, différentes au niveau du résultat, mais j'étais comme eux. Et je ne peux pas vous dire à quel point ça a été fort, de part et d'autre, d'être avec des gens. Nous travaillons de la même façon, nous pensons de la même façon, mais la différence, moi, c'est quand même un peu le passé, eux, c'est demain. Et en sortant de là, je me suis dit, demain est assuré, la relève est faite, le dessin d'audience continuera, et moi, eh ben, on verra ce qui se passera, je fais confiance en demain.
Et d'ailleurs, ils ont gagné le droit d'être sur votre mur. Alors, non pas en dessin, le dessin des dessinateurs, il est dans le livre, jugé le 13 novembre, Noël Ehrenschmidt, mais votre bande de copains dessinateurs et dessinatrices est sur votre mur affichée. Enfin, il y a une photo, quoi. C'est une photo d'eux. Et j'aimerais que notre œil se déplace un tout petit peu sur le mur où sont donc représentés. Afficher quelques-uns de vos dessins, encadrer même quelques-uns de vos dessins. Je disais tout à l'heure qu'ils sont magnifiques. J'ai un peu envie de vous demander d'en choisir un pour terminer et de nous le décrire et de nous dire pourquoi ce choix.
Alors, il est certain que le dessin que je vais choisir, c'est le dessin que j'ai fait en l'an 2020 du salon. C'est un dessin que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu le Covid. Je m'ennuyais, je mourrais à l'idée de ne pas pouvoir bouger. Et Frédéric Houssin, toujours lui, me dit « Mais arrête de râler, dessine ton cadre de vie. J'aurais jamais fait ça les années précédentes. » Je me vois me mettant dans le petit salon, face au salon, donc face au portrait de ma mère, au portrait de moi étant petite et surtout au dessin que ma mère avait fait de sa propre maison à 16 ans. C'était une façon de regarder mon passé, ce que j'ai jamais fait, ça m'intéressait pas le passé, mais là, ça m'a passionnée, j'étais face à moi-même, face à mon héritage, et j'ai dessiné ce salon en me disant, je sais pourquoi je le dessine, c'est aussi pour mes petits-enfants. Et pendant toutes ces journées où j'ai dessiné ma vie, mon cadre de vie, le cadre de mes enfants, j'ai pensé aussi à la transmission vers mes petits-enfants. Donc ça venait de maman, et ça passait par moi pour aller vers les générations suivantes. Et j'ai eu le sentiment que là, c'était formidable, c'était bouclé. Et demain, on verra bien.
Merci Noël Ehrenschmidt.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Alexandre Martin, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.